Je ne trouve pas scolaire dans vos contacts. Voulez-vous appeler?
Est-ce que ça marche?
L'image ne peut pas être vue ou interprétée en dehors de son contexte. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'une image est tant répétée que ses occurrences précédentes deviennent partie intégrante de son cadre médiatique? Notre invité, Matteo Treliani, théorise ces répétitions, leurs impacts sur l'image et comment notre mémoire collective et dynamique est affectée par ces interactions récurrentes avec l'archive. Bienvenue à...
Théorie dysfonctionnelle.
Une balade de diffusion qui nous explique
que la théorie ne
sert à rien,
mais qu'elle a le mérite
de nous faire perdre beaucoup de temps.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Scolè. Aujourd'hui, nous recevons Matteo Treliani. Matteo, peux-tu te présenter, s'il te plaît?
Merci pour cette invitation. Je suis Matteo Treliani, je suis enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur. Je suis sémiologue et je m'occupe essentiellement d'archives audiovisuelles et du restement des circulations d'images.
Et quel concept théorique nous amènes-tu aujourd'hui?
Voilà, je souhaiterais justement parler de la notion de la circulation des images. Je pense que c'est un phénomène dont on fait toutes et tous l'expérience dans les environnements médiatiques. On peut se poser la question, ça veut dire quoi qu'une image se répète? Donc si on prend une image soi-disant emblématique, récente, comme la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison Blanche en février 2025, cette séquence a été immédiatement jugée d'historique et on l'a revue plusieurs fois dans plusieurs environnements. Et donc, on a le sentiment que cette image se répète ou elle circule, elle est virale, disons. L'idée serait un peu de reprendre cette vision empirique ou naïve de la question pour voir, en fait, grâce à ce phénomène, comment les images, en fait, sont des phénomènes dynamiques que l'on peut essayer de comprendre justement dans leur différenciation. Et chaque occurrence, en fait, est différente. Et le fait que chaque occurrence est différente nous montre que la singularité de l'image n'est pas donnée par une origine qui est reprise plusieurs fois, mais ce sont plutôt ces reprises, ces différentes occurrences qui nous aident à penser qu'il y a une seule image que l'on appelle rencontre.
Est-ce que tu veux dire un peu plus sur le background théorique de ces idées, ou le background théorique de comment la répétition des images transforme notre relation à l'image et à l'histoire?
Alors, en fait, on peut prendre les choses de plusieurs points de vue. Une idée initiale, en fait, c'est de reprendre un peu la notion de Gilles Deleuze des différences de répétition. Donc, ça date un peu, c'était sa thèse de doctorat, mais je pense que c'est assez clair pour comprendre ce qu'on entend ici par circulation des images. On reprend l'exemple de Trump et Zelensky. La séquence que l'on voit d'abord en direct dure une vingtaine de minutes. Puis, on a plusieurs reprises dans les médias sociaux, à la télévision, dans la presse aussi. Donc, on a des frames, des captures. On a des incrustations, on a des extraits. Chaque reprise, en fait, est différente. Il est très difficile de dire que les reprises sont les mêmes. Or, d'un point de vue très naïf, on pourrait se dire, en fait, que chronologiquement, on a une séquence qui s'est donnée en direct, manifestée, et ensuite des reprises qui ont été faites par la suite. Mais même de ce point de vue-là, en fait, il est assez difficile d'aller chercher l'origine, l'original, disons. L'original, dans ces cas, par exemple, le direct a commencé alors que les discours étaient déjà en cours. Donc, on a un direct qui dure 20 minutes, mais qui est donc beaucoup plus court que de l'intégralité du dialogue qui sera diffusé ensuite. Donc, déjà, de ce point de vue, trouver l'origine est compliqué. Or, en fait, là, on pourrait aussi dire que cela ne concerne que l'audiovisuel. L'audiovisuel est basé sur la temporalité. Et donc, la temporalité, en fait, on peut la couper, on peut avoir une durée qui n'est pas la même, en extraire, en remonter. Mais ce n'est pas que ça, en fait. La même chose se pose pour les images fixes. chaque contexte, en fait, définit quelque chose de différent. Donc, d'un point de vue naïf, on est porté à dire qu'on a la même image qui se répète. Peut-être les choses sont plus complexes, si on y pense mieux. C'est en fait, ce sont les répétitions des images qui nous font penser à une singularité, à une image. C'est parce que l'image se répète, en fait, qu'on arrive à en définir une singularité. Et Deleuze dit quelque chose de très intéressant, que la distinction entre la répétition, l'en soi de la répétition, et la généralité. Or, d'habitude, dans le langage commun, on a l'habitude de confondre la généralité avec l'en soi de la répétition. La généralité serait deux exemplaires, en fait, d'un concept unique, par exemple deux bouteilles. Et ça, ce n'est pas une répétition, c'est une similarité, c'est une équivalence. Disons, l'objet n'est pas le même, il ne se répète pas. Ce sont deux objets qui sont similaires ou équivalents. Donc, on est dans le monde de la généralité. L'en soi de la répétition, c'est quelque chose qui se déroule dans les temps. Pour pouvoir répéter quelque chose, il faut que ça se répète dans les temps. Et donc, ça, c'est l'en soi de la répétition. Quand quelque chose se répète dans les temps, en fait, il s'y différencie. Donc, à chaque fois, on a une occurrence qui est différente. Elle est différente, même juste pour le contexte, mais du point de vue numérique, c'est très clair. On n'a pas les mêmes données, on a quelque chose qui n'a pas les mêmes pixels qui sont utilisés pour l'image, on n'a pas les mêmes écrans, donc la matérialité est différente. Mais à partir de ces différenciations, on peut trouver une singularité et c'est à partir de la différenciation que l'on trouve l'image singulière. La chose un peu plus simple pour le comprendre, en fait, c'est de se dire que la séquence de Trump et Zelensky n'existerait pas si on n'en avait pas eu des répétitions. On l'aurait oublié. Elle existerait empiriquement, mais l'effet de l'évoquer, l'effet d'en reparler, l'effet de la répéter, donc de la reprendre, en fait, c'est ce qui fait, c'est ce qui constitue, en fait, l'image événement de Trump et Zelensky. Donc, en fait, si on détourne le point de vue, on voit qu'on n'a pas une singularité qui et répète, mais on a une continuité, une forme de différenciation, puis les dynamismes par lesquels les choses se répètent, dit Arnaud Boinich, qui constituent en fait notre perception, notre conception de l'image. Dans les disciplines en fait, qui ont eu à cœur l'analyse de l'image, donc moi je suis sémiologue, je m'occupe d'audiovisuel, on a pendant très longtemps regardé les images en faisant des analyses de l'objet et en faisant aussi abstraction du contexte. Au départ, c'était même l'objectif de l'analyse de l'image. Donc, moi, j'ai étudié à Bologne. Umberto Eco, qui était prof à Bologne à l'époque, avait cette théorie des trois intentions, l'intention de l'œuvre, l'intention de l'auteur et l'intention du lecteur. Et son idée, c'était que la sémiologie devait s'occuper de l'intention de l'œuvre, ni du lecteur, ni de l'auteur. Il fallait donc une forme d'immanence du texte du point de vue littéraire. Donc, on se passe du contexte, on ne regarde que les contraintes inhérentes qui se trouvent à l'intérieur, en fait, de l'objet. Bon, petit à petit, on découvre l'importance du contexte. On invente ce que s'appelle la sémiopragmatique. Mais on est toujours dans une perspective, dans une approche où on fait on extrait comme une capture d'écran, comme un screenshot d'un phénomène qui est en fait continu et que l'on considère comme s'il s'agissait juste d'un instantané, un instant T. Donc, en fait, on peut aussi considérer que l'image se déroule dans toutes ses reprises. C'est quelque chose qui est une forme de continuité et évidemment, on ne pourra jamais avoir la perspective sur l'ensemble de ces reprises, de ces différenciations. Mais une chose, c'est d'extraire une capture pour avoir une sorte d'échantillon d'un phénomène statique. Et autre chose, en fait, c'est d'essayer de constituer une généalogie qui est toujours un échantillon biaisé d'un phénomène continu, mais qui vise, en fait, l'effet de faire l'échantillon du phénomène continu.
Le mot que tu as utilisé à plusieurs reprises, singularité, a une belle polysémie. Ici, est-ce qu'on parle d'une singularité en ce sens mathématique et physique de l'endroit où les choses brisent, ou singularité au sens plus régulier de cette chose unique, instantanée?
Je pense que c'est un peu la question se retrouve un peu dans les deux. Les tout se comprend peut-être du point de vue temporel. C'est le fait de bloquer effectivement l'instantané et donc de n'avoir qu'une capture comme une photo. Alors évidemment, quand on est dans l'image, on pense à la photo et on pense à quelque chose de figé, de fixe. Mais en fait, lorsqu'on regarde ces réinstanciations dans différents environnements, on voit qu'il y a un mouvement, on voit qu'il y a quelque chose qui se déplace. Et je pense qu'un élément important, c'est penser au souvenir des images. En fait, si on essaie de penser au souvenir d'une image, il est très difficile de comprendre quel est le souvenir, quel est l'environnement, le contexte dans lequel on était au moment où on a vu une image. Les images se voient plusieurs fois. Après, on parlera peut-être du contexte précis dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais l'effet de les revoir plusieurs fois signifie en fait que nous avons une pluralité des contextes. Donc, la semi-pragmatique s'était intéressée à l'analyse des contextes, de l'image dans son contexte, dans le contexte du lecteur, dans le contexte des réceptions de l'image. Mais en fait, on a une multitude de contextes dans lesquels les images se déploient. Et il est difficile pour nous de définir quel est le contexte dans lequel s'est trouvée l'image dont on fait les souvenirs. On peut prendre un exemple que peut-être trop jeune, mais il n'a sans doute pas vécu les 11 septembre 2001.
En fait, j'avais 7 ans.
7 ans, d'accord.
Et si je me souviens plus ou moins des images des tours, j'ai un souvenir parfait de George W. Bush qui déclare la guerre.
Alors, les 11 septembre, on a des images qui sont diffusées en direct. Et en particulier, il y a un moment précis entre 9h02 et 9h03, heure de New York. C'est le moment où les premiers avions ont déjà touché la tour nord. Donc, on a une prise de vue des ABC sur la fumée. On a plein de journalistes qui commentent. On a la moitié du globe, je pense, connecté, qui regarde ces mêmes prises de vue, parce qu'il y en a une en particulier, qui est celle d'ABC, qui est reprise partout, la reprise par CNN, la reprise par BBC, etc. Et à ce moment-là, on voit arriver, du côté droit de l'écran, l'avion 175 qui touche la tour sud. Simplement, on ne comprend pas, parce que les tours sont une sur juxtaposées dans l'image, et donc on ne comprend pas que c'est la tour sud qui a été touchée, on pense à la tour. Alors cette séquence-là, c'est une séquence importante, ce moment-là est important du point de vue événementiel, parce que c'est le moment où on comprend que c'est un attentat, ce n'est pas un accident, et c'est un moment qui a une grande importance du point de vue du terrorisme, parce que la médiatisation de l'événement correspond à l'événement en quelque sorte, c'est-à-dire que ça propage la terreur dans les globes en direct, sans médiation. Normalement, on a la médiation journalistique de l'événement. Là, il n'y a pas de médiation. On vit l'événement. L'image est l'événement. Or, cette image-là a été évidemment reprise une quantité innombrable de fois. Et donc, on a un événement de l'image qui est direct. Et puis, on a les moments où ça commence à recirculer. Et une journaliste en particulier, à l'époque, affirme juste quelques secondes après 9h02, elle dit: We are going to see that again just to make sure that we saw what we thought. On va revoir ça pour être sûr que nous avons vu ce que nous pensons. Et donc là commence le replay. C'est vraiment la puissance, le pouvoir du fait de rejouer, les potentiels heuristiques de la répétition. Le fait de revoir quelque chose qui nous permet de mieux la comprendre parce qu'on la connaît déjà. Et donc il y a la reconnaissance des formes qui nous permet de mieux voir qu'il y a un avion qui arrive. Et ce n'est pas la tour nord qui est touchée, mais la tour sud, etc., etc. Or, dans cette redondance et reprise des images, moi, par exemple, aujourd'hui, j'arrive à me souvenir parfaitement du lieu où j'étais quand j'ai vu les images, les salons, il y avait ma mère, je faisais semblant de faire des devoirs, du lycée. Mais en même temps, je pense que l'image que j'ai en tête a été remplacée par les répétitions, par les différenciations qui ont eu lieu par la suite, en quelque sorte, le pouvoir de l'extériorisation et aussi celui de chasser certains de nos souvenirs pour les remplacer par des nouveaux qui sont extériorisés, qui sont devant nous. C'est quelque chose dont on fait l'expérience, je pense, tous les jours avec les photos des vacances, les photos des familles, de nos parents, les photos des enfants. Quand on a des enfants, on vit des événements de la vie quotidienne où on capture, on enregistre ces événements. En fait, l'effet d'enregistrer ces événements les concrétise et fera en sorte de chasser les événements que nous n'avons pas enregistrés. On fait l'expérience, je pense, très souvent avec mes parents, quand ils me montrent mes photos de quand j'étais enfant, on dirait presque que les souvenirs de mon enfance sont construits par ces images extériorisées. Avec mes enfants, on a pris l'habitude de revoir des vidéos d'eux quand ils étaient petits. Donc, on construit l'effet de répéter, donc de remontrer ces images, permet en fait de consolider la mémoire, les souvenirs, ça est quelque chose d'affectif, ça permet de commenter, mais en même temps, ça remplace ce qui n'a pas été enregistré et aussi ça remplace les précédentes versions de ces mêmes images. C'est-à-dire que ces mêmes images reprises, revues récemment, vont modifier les souvenirs à chaque répétition. La mémoire est dynamique et donc ce dynamisme de la mémoire est quelque chose qui se voit de manière très claire, du point de vue concret, matériel, dans ces extériorisations. Donc, je ne pense pas que l'extériorisation ou l'image du 11 septembre ou de Trump et Zelensky ait une spécificité par rapport au fonctionnement de la mémoire en général, mais ce que l'on voit dans les documents numérisés ou dans les documents en général extériorisés, c'est que ça rend le phénomène visible. Donc, c'est visible, ça se voit. Donc, on peut l'observer, on peut le mesurer, on peut l'analyser. Donc, ça, c'est très clair, je pense. Et aujourd'hui, beaucoup de gens parlent des circulations des images. Ça fait longtemps que, dans les domaines du marketing, on parle des viralités des contenus, n'est-ce pas? Et je pense que la raison, c'est qu'aujourd'hui, les phénomènes sont visibles. Ils sont très clairement visibles dans les environnements que l'on utilise. Et cette visibilité nous permet aussi, en tant que chercheurs, de mieux les comprendre, mieux les observer et mieux les analyser. Aujourd'hui, dans les domaines du monde des médias audiovisuels en particulier, on est passé d'une époque où on peut dire que tout commence du point de vue du concept avec la reproductibilité technique, au moment où on commence à reproduire à l'identique de manière industrielle des contenus qu'à l'époque on appelait des œuvres d'art, mais qui sont des contenus pour nous aujourd'hui médiatiques. Eh bien, au début, on a des photos et des films qui sont en fait des médias qui fonctionnent sur la nouveauté. On tourne un film, on montre le film, et en fait, le film est nouveau, même si il sera répété plusieurs fois à plusieurs endroits. Les choses commencent à changer, c'est-à-dire qu'on se retrouvera dans la répétition de la répétition, la reproduction de la reproduction avec la télévision. Parce qu'avec la télévision, on doit combler un flux visuel continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, on va devoir faire recours à des répétitions. Et donc, on rentre dans les domaines de la redondance. À la télévision, les données que nous avons de l'Institut national de l'audiovisuel, par exemple, disent qu'environ entre 2/3 et 70-75% du flux audiovisuel des chaînes télévisuelles françaises sur une vingtaine d'années sont des répétitions, c'est-à-dire sont des images qui avaient déjà été montrées dans un autre contexte. Donc, en fait, la quantité de ce qui est répété est plus importante que la quantité de la nouveauté. Donc, on a besoin d'images pour combler le flux visuel. Ce n'est pas le flux visuel qui vient en aide à la diffusion des créations, mais c'est le contraire, c'est les créations qui doivent combler le flux visuel. Et aujourd'hui, c'est encore plus évident avec les user-generated content, les médias sociaux. Les médias sociaux qui ne font que répéter des images déjà prises plusieurs fois, ou même qui répètent dans la création. La création, en fait, est une forme de reprise des contenus qu'on a vus auparavant, c'est très clair dans les phénomènes que l'on voit sur TikTok, sur Instagram, etc. Et voilà, les créations visuelles des intelligences artificielles génératives, c'est une étape de plus dans ce sens qui vise à automatiser les processus de création. C'est que ça me semble montrer de manière très évidente comment c'est l'infrastructure médiatique qui a besoin de contenus visuels et non pas les créations visuelles qui ont besoin d'une infrastructure pour pouvoir être diffusées. Donc, tous ces contextes-là, en fait, nous rend visibles ces statuts de l'image dynamique. Statut dynamique de l'image, en fait, qui on avait peut-être plus du mal à voir avant, parce que les contextes dans lesquels on regardait les images étaient formatés, étaient périmétrés, il y avait des frontières bien précises.
La réutilisation des images, et même de certains clips vidéo dans les nouvelles, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans le thème de notre podcast, dans la scolaire?
C'est un phénomène qui manifestement pose problème du point de vue sociétal, je dirais. C'est-à-dire que c'est le phénomène le plus évident de l'invasion des contenus et de l'espace du visible, dans le cas du visible, gouverné par cette surabondance des productions qui nous envahissent de tous les côtés et tous les jours. Et donc, on a un excès de stimuli et on sent, à mon avis, toutes et tous, en fait, le besoin de faire face à cette invasion de notre espace. Moi, je m'occupe du visible, mais ça concerne aussi les textuels, bien évidemment, ou l'audio et l'audiovisuel en général. Alors, il y a un exemple que j'ai trouvé très intéressant. Il y a presque une dizaine d'années, en 2018, je crois, j'ai pu assister à une exposition d'un photographe. Qui a l'habitude de prendre des photos dans des contextes de guerre. Dans ce cas, il avait pris des photos à la guerre en Syrie. Il s'appelle Matthias Bruckmann, c'est un photographe suisse. Et dans cette expo que j'avais eu l'occasion de visiter à Lausanne, il montrait, il avait une façon de mettre les visiteurs devant ce que l'on aurait pu appeler des images sans contexte. Et ce qui est extrêmement intéressant, parce que dans cette circulation, cette redondance, en fait, ce que l'on voit, c'est l'importance, en fait, des recontextualisations d'images, les incrustations, les lieux, les environnements où elles se trouvent. On pourrait dire, en fait, qu'on a du mal à les comprendre, à les analyser, parce qu'on a trop de cadres interprétatifs. Les cadres sont tellement présents, tellement importants, et il y en a tellement qu'on a du mal, en fait, à trouver nos repères pour les interpréter, pour les comprendre. Donc parfois, on a du mal à faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, par exemple. Évidemment, cette distinction est difficile à faire dans tous les cas, mais ce qui se pose comme problème, en fait, c'est la question de la croyance. On ne sait plus à quoi croire. La croyance est tellement faible dans les environnements médiatiques qu'on a tendance à ne plus croire à rien. La problématique des fake news, ce n'est pas le fait que l'on croit à tout ce que l'on nous donne, c'est plutôt le fait qu'on ne croit plus à rien de ce qu'on nous donne, donc on n'a plus de repères pour donner du sens à cette surabondance des documents visuels. Et donc, Matthias Bruckmann, qu'est-ce qu'il faisait? Il nous donnait des images de guerre sans légende. Alors, c'est difficile, évidemment, quand on parle de sans contexte, si on le dit en sociologue, il nous dira, évidemment, mais il y a toujours un contexte, c'est impossible d'enlever un contexte à quelque chose. Par contre, il peut y avoir une idée performative, une idée processuelle, en fait, de la décontextualisation comme processus ou décadrage. L'effet de montrer des photos dans une expo en enlevant la légende, c'est quelque chose qui produit un effet très fort dans les visiteurs qui se sont tout de suite désemparés. Ils ne savent pas comment lire ce qu'ils voient. Dans une petite brochure de l'expo, Matthias Bruckmann indiquait un plan de l'expo avec des numéros. Il fallait relier les numéros à des notes des bas des pages à la fin de la brochure pour comprendre, pour pouvoir lire la légende de l'image. Donc ça demandait un effort, ça demandait une recherche qui demandait une prise de temps et aussi donc une prise de recul. Et donc souvent, Bruckmann joue un peu avec les visiteurs, montrant par exemple l'image d'une situation de guerre en Syrie ou en Irak. Et en fait, ensuite, dans la légende, il explique qu'il ne s'agit pas d'une scène de guerre, mais d'un documentaire tourné pour une chaîne irakienne qui vise à montrer en fait la situation de guerre et donc une mise en scène. Et ça, c'est justement cette perturbation du visiteur, c'est quelque chose donc qui nous demande, nous impose en fait un moment des réplis, ça perturbe en fait ces flux visuels, cette surabondance des contenus numériques et ça nous impose en fait la réflexion, un regard critique pour pouvoir trouver nous-mêmes les éléments, les informations qui sont nécessaires pour cadrer et donc interpréter ces contenus.
Merci d'avoir écouté Scolet, une balade aux diffusions proposée par la chaire des recherches du Canada sur les écritures numériques. Nous espérons que vous ne retrouverez pas les temps perdus, mais que vous continuerez à en perdre encore, en nous suivant sur scolet.écriturenumérique.ca, S-K-H-O-L-E, écriturenumérique au pluriel.ca, et en écoutant nos prochains épisodes.